soviétique Père Marie-Dominique Philippe, 8 octobre 1997 à Saint-Jadar.
Deux psychologique de Thomas d'Aquin. Les historiens aiment beaucoup ça. Alors ils parlent du trépied. Vergenier revenait souvent sur le trépied de Saint-Thomas. Le trépied, on est bien situé sur le trépied. Alors il y avait évidemment vraiment l'écriture. Parole de Dieu. Donc la foi. De l'écriture se fait dans la tradition. C'est pour ça que ces deux sources sont différentes. Et c'est quand même deux sources. La tradition, et dans la tradition, il y a tous les conciles qui viennent préciser. Les premiers conciles sur le mystère du Christ, les seconds conciles après sur la Très Sainte Trinité. Pas coopérer à la foi si je suis dans l'erreur. La foi rejette toute erreur, puisque la foi ne fait adhérer à la vérité première. Donc, une intelligence vraie, une intelligence qui cherche la vérité, qui cherche la sagesse. Et Saint Thomas choisit Aristote à la place d'Avicenne. Et le point de vue, la pensée théologique de Saint Thomas implique donc ces deux éléments. Des deux. Des deux. La connaissance théologique n'est ni la foi, ni la télé, ni la philo. La pensée de Thomas d'Aquin, c'est la pensée de Thomas d'Aquin. Heureusement que c'est la pensée d'un saint. Mais ce n'est ni Aristote, ni la foi. Tout simple. Alors, de cette coopération, retrouver une philosophie. Il y a des éléments de philosophie. Il y a la foi. Et la foi est première. Dans cette coopération, il y a un, deux. L'intelligence est au service de la foi. Il y a une finalité, chercher la vérité. Et les trois cherchent la vérité, la coopération, une vérité théologique. Et la vérité théologique est soumise, la vérité théologique est soumise au magistère. De l'Église. Ce que beaucoup de théologiens, hélas, aujourd'hui, ne voient plus. L'évêque a autorité quand les évêques qui ont autorité sur l'université catholique. À Fribourg, c'est l'évêque seul de Fribourg. Il y a des choses différentes comme ça dans les différents pays. Mais l'évêque de Fribourg prend conseil des autres évêques quand il y a un litige. Oui. Et alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Il y a les théologiens d'une université catholique refusent d'obéir à l'évêque qui n'a pas les mêmes diplômes. Les diplômes sont docteurs en théologie. En tant que docteur en théologie, si l'évêque n'est que docteur en droit canon, ce qui arrive souvent, il refuse d'obéir parce qu'il oublie que la théologie est une science subalternée à la science des saints, parce que c'est la foi. La foi est tout entière ordonnée à la vision béatifique. Et c'est les évêques, avec le pape, qui ont autorité pour garder pure la foi et sa finalité, la vision béatifique, la finalité de la foi, tout entier ordonné. Ordonné donc à ce point de vue de la vision béatifique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Je l'ai vu, moi. Parce qu'il y a eu des histoires avec l'égard de ce qu'un théologien avait pu dire en réunion de faculté. Ils ont dit, mais nous devrions être jugés par nos confrères théologiens qui ont le même diplôme que nous. Et non pas par l'évêque qui n'a pas ses diplômes. Vous voyez là, je dis ça parce que c'est actuel, c'est dans l'air. Surtout le groupe des théologiens allemands, c'est dans l'air. On veut faire de la théologie une science particulière et non plus subalternée à la vision béatifique. Alors si c'est une science, un savant en physique théorique ne va pas être jugé par l'évêque, il va être jugé par ses pairs, c'est-à-dire par les autres savants qui sont égaux en qualité, en respectant peut-être ceux qui ont reçu des dignités particulières. Mais c'est très grave, parce que ça montre que la foi des théologiens est contaminée. C'est plus la vraie foi. La science passe avant. Ce sont des petits signes extrêmement significatifs, ça, pour moi. Que la théologie qui devrait être au service des évêques, au service de la tradition maintenue par l'Église, veut s'exalter et prendre son autonomie propre de science, une science parmi les autres, et reçu parmi les autres comme ça, savant. Alors, ça va. Un petit événement moderne. Mais ici, revenons à la scolastique, qui désire trouver dans cette pensée théologique de Thomas d'Aquin, qui fait cette coopération, retrouver l'intelligence philosophique. Je crois que c'est impossible. Parce que que la coopération des deux fait un type de connaissance qui n'est ni la foi, ni la philo. C'est une connaissance théologique qui dépend des deux, qui provient des deux, et qui est un mélange, une coopération d'un type particulier. Alors, oui, je prends un exemple pour que vous compreniez mieux. La philosophie scolastique de Thomas d'Aquin, prenez, s'il existe encore ici, je crois qu'il doit encore exister, un Macquart. Macquart, je crois que c'est la dernière philosophie scolastique thomiste. Et que vous voyez que la philosophie thomiste commence par les transcendentaux. Dans le Derridaté de saint Thomas, ça commence par les transcendentaux. C'est-à-dire, comment le vrai, la raison, la ratio, veri, la ratio, boni, la ratio, unius, aliquid,
je
philosophie réaliste par les concepts, les rationes, qui sont les concepts, ou qui sont le fondement des concepts, donc qui sont par le fruit d'une critique. Et alors, au fond, à partir de là, la métaphysique n'est plus réaliste. Elle se fonde sur des conclusions, sur le fruit d'une pensée. Et ça, c'est très significatif. Mais j'ai enseigné cette métaphysique-là. Plus exactement, c'est celle que j'ai reçue. Et après avoir réfléchi, je me dis, on ne peut pas faire ça. Et on me demandait de faire ça, de continuer comme ça. J'ai dit non, parce que je ne peux pas fonder ma pensée métaphysique sur une critique, sur le résultat d'une critique. Je commence à partir d'une expérience. Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'expérience d'une amitié de jouissance spirituelle peut être le point, mais du côté vérité pratique, du côté vérité spéculative, c'est la même chose. On peut réfléchir sur la ratio amitié au niveau théologique et la joie, gustate, vidite, gustate. Les mystiques parlent toujours de la joie de vivre de l'amitié de Dieu. Là, on dit la joie et non pas la jouissance plutôt, mais la joie. Mais c'est la même chose, si vous voulez, parallèlement. C'est la propriété de l'amour. Normalement, l'amour dilate notre cœur et met la joie. Eh bien, je ne peux pas me servir de cette joie, de cette expérience intérieure mystique, pour chercher ce que c'est que l'amitié, au plan philosophique. Pouvons-nous réfléchir sur le choix du Christ sur nous, et notre réponse en philosophie? Non. C'est de la théologie. C'est de la théologie. On est chrétien, mais on est avant tout théologien. Mais pour faire une bonne théologie, on doit purifier notre intelligence. Et c'est pour ça qu'on fait la philosophie même au noviciat. Parce qu'on présuppose qu'au noviciat, il y a une grâce de conversion qu'on ne retrouve pas après. Au noviciat, on a une grâce d'être malléable. Parce que l'eau bout, ou le lait bout, ou le vin bout, là c'est malléable. On pourrait vous faire avaler des tas de choses au noviciat. Si on ne cherchait pas la vérité, on pourrait vous faire avaler des tas de choses. Parce qu'on est novice. On aurait un permettre un peu tyrannique. Dire, écoutez, hein, la vérité, c'est la sincérité. Donc c'est ce que je crois être la vérité que je vous impose. C'est moi qui le dis, parce que je suis votre maître. Le gourou. Si tu ne me comprends pas, pars. Hein. Ça va faire. Et au fond, c'est la seule chose quoi. Alors, on a des disciples qui ne cherchent plus la vérité, mais qui avalent ce que le gourou dit. Mais on cherche la vérité. Alors, pour chercher la vérité et faire une théologie saine, c'est merveilleux, Thomas d'Aquin. Mais Thomas d'Aquin ne suffit pas. Je vous ai dit, j'ai vu ça. mais on lui posait des problèmes actuels de théologie morale. Là, le professeur Dodin disait, ah, saint Thomas n'en a pas parlé. Alors, je sais pas. Quand saint Thomas en avait parlé, il disait des choses très intelligentes, il avait compris dans Monaghan, mais pas suffisamment pour comprendre que la théologie est vivante dans l'Église. Saint Thomas m'éduque, mais saint Thomas n'est pas le maître. Il n'y a qu'un seul maître, le Christ. C'est pour ça que Jésus n'a pas écrit, vous comprenez ? Et qu'il a laissé le soin à ses disciples d'écrire. Et il y a eu 4 évangiles qui sont tous les 4 différents pour montrer que Jésus, on ne peut pas épuiser Jésus. C'est un mystère de Dieu. Mais on veut que tout ce qu'on dise soit conforme à Jésus lion de Juda, à Jésus jeune taureau, à Jésus visage d'homme, à Jésus aigle. Ce qui donne à la théologie une très grande souplesse analogique. Mais un souci très grand, plus la souplesse est grande, plus il faut que l'intention soit forte de chercher la vérité. Et une vérité à partir de la foi. Et la foi, elle est gardée par l'Église. C'est pas le théologien qui a comme fonction et grâce de garder la foi. Pauvre foi, elle sait bien me le garder. Hein. C'est l'Église qui reçoit du Saint-Esprit une grâce particulière. Et c'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui, parce qu'autrement, on ne saurait plus où aller. Parce que c'est tellement difficile quand on est en face d'intelligence vigoureuse. Et gueule, intelligence vigoureuse, ou une erreur. On dirait à partir de Hegel, il faut être de son temps, donc faisons tout, soyons tous ces Hegeliens. Je ne peux pas être un Hegelien si j'ai la foi qui va jusqu'au bout. Je m'aperçois que cette foi n'est pas la foi catholique. Et que cette foi ne recherche pas en premier lieu la vérité. C'est la foi d'un théologien qui se veut théologien et qui lutte contre certaines erreurs théologiques, à la place de tout reprendre humblement, dans une recherche de vérité philosophique, pour être au service, il se sert d'une philosophie subjective, idéaliste. C'est pour ça que c'est intéressant de faire cette expérience soi-même. Pourquoi l'Église n'accepte pas une théologie hegelienne ? Pourquoi ? Pourquoi l'Église n'a pas accepté non plus, avec enthousiasme, la philosophie d'Occam, la théologie d'Occam au XIVe siècle ? C'était nouveau, c'était original. Si on ne cherche pas la vérité, on cherche l'originalité. Et on voit ce que c'est quand on cherche l'originalité. Assister de temps en temps à une exposition d'art moderne, on voit jusqu'où va l'originalité. C'est extraordinaire. Les gens, vous voyez, ça revient exactement à ce que disaient certains. Je crois, parce que c'est absurde. Parce que moins on comprend, plus la foi est grande. C'est faux. Mais c'est ce qu'on disait. Credo, quod absurdum. On peut dire ça au niveau second, c'est que c'est vrai. La foi regarde quelque chose qui me dépasse. Mais ce qui me dépasse n'est pas toujours absurde. de l'amitié au point de vue humain. Et si je suis croyant, je peux faire l'expérience d'une amitié que j'ai avec des incroyants. Mais cette expérience d'amitié illimitée, parce que je ne peux pas communiquer avec eux par rapport à ma vie chrétienne, par rapport à ma vie religieuse, ils me regardent toujours comme un phénomène particulier parce que je suis chrétien. Alors, ils respecteront s'ils ont vu que ce qu'on pouvait dire n'était pas trop bête, qu'on est intelligent. Alors, ils respectent. Je vous respecte quant à votre intelligence. Mais votre foi, votre croyance, ça, on en parlera un autre jour. Et c'est toujours un autre jour, ça veut dire qu'on n'en parle jamais. Alors partons de l'expérience humaine d'amitié que nous avons tous, plus ou moins, que nous aurons, j'espère, tous dans la vie en rencontre. Des pépinières, c'est ça que doit être un noviciat. Rencontre des pépinières d'amis du Christ. Tous les amis du Christ sont mes amis. Mais au plan surnaturel. Parce que parmi ces amis, il y en a que qui me dépassent complètement. Je ne vois pas du tout ce qu'ils sont. Je les aime dans ma foi au Christ. Et je respecte ma foi au Christ. Mais il peut y avoir aussi des amitiés humaines. Alors, je pars de l'expérience d'amour d'amitié et je l'analyse au plan philosophique. Tu as parfaitement le droit de le faire. Qu'est-ce qu'il y a de premier? Alors faites ceci. Avant la guerre du Rwanda, il y a un saut.